le matin, quand on se lève, on se dit bonjour. Et à midi, lorsqu'on se met à table, on dit bon appétit. Et le soir, quand on va se coucher, on se dit bonne nuit. Et à tout moment, lorsque l'homme ouvre l'évangile, le Seigneur lui dit bonne nouvelle et lui dit aussi bienvenue. Alors, prions pour pouvoir accueillir cette bonne nouvelle. Seigneur, notre Père, tu es au milieu de nous par ton esprit. Apprends-nous à être là, devant toi. Éveille-nous à ta présence et à celle des frères et des sœurs qui sont à nos côtés. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire. Amen. Et aujourd'hui, je lirai un texte, des extraits du texte dans l'Ancien Testament d'Ésaïe, dans les chapitres 55 et 56. Hola, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du pain et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie. Et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de buissons, poussera le cyprès, et au lieu de l'ortie, poussera le myrte. Ainsi parle le Seigneur. Veillez à l'équité, agissez selon la justice, car mon salut est près d'arriver, et ma justice est sur le point de se dévoiler. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur Dieu qui rassemble les bannis d'Israël. J'en rassemblerai d'autres avec les siens rassemblés. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, les chapitres du 35 à 43. Jésus guérit un aveugle à Jéricho. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit une foule en mouvement et demanda ce qui arrivait. On lui répondit, c'est Jésus, le Nazoréen, qui passe. Il s'écria, Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Ceux qui marchaient en avant le rabrouaient pour le faire taire. Mais ils criaient d'autant plus, fils de David, aie compassion de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et se mit à le suivre en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer Dieu. Et ensuite, au chapitre 19, les versets 1 à 10. Jésus s'invite chez Zachée. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs de taxes et qui était riche, cherchait à voir Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas la voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le texte d'Ésaïe 55 et 56 a été écrit aux environs du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui était une période très sombre et troublée du peuple d'Israël qui était en exil à Babylone depuis environ une quarantaine d'années. Et le danger de l'assimilation religieuse avec les autres peuples les guettait. Hélas, il faut bien vivre. Mais qui pourrait imaginer que le Seigneur choisirait un nouvel envahisseur, Cyrus, roi de Perse, pour permettre aux Juifs exilés de retourner dans leur pays où tout est à reconstruire? Ils sont appelés à un nouvel exode, marcheurs de la foi au travers du désert vers Jérusalem où le temple est en ruine. Il est temps pour le peuple de se lever, de redresser leur dos, courbés par l'esclavage et le découragement ou l'assimilation. Ils ne reviendront pas tous. Et le prophète Ésaïe les invite à la repentance, à fuir l'idolâtrie, les fausses facilités pour se retrouver véritablement libre. Une foi vibrante anime ces textes d'une grande beauté et ils ont été repris par Jésus lui-même. Et les premières communautés chrétiennes ont reconnu dans ces textes, écrits 600 ans avant, l'annonce de la naissance de Jésus et de son ministère dans le personnage du juste persécuté, mis à mort et vivant. Aujourd'hui, 21 siècles après, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Nous avons allumé la première des quatre bougies. Elles ouvrent l'année liturgique pour un certain nombre d'églises chrétiennes, rappelant l'attente de la naissance de l'enfant promis par les prophètes, annoncé par les bergers il y a si longtemps. Ces quatre semaines sont un temps d'attente, de préparation, de joyeuses espérances à titre individuel et collectif. Il va souvent à l'encontre de ce que nous trouvons dans nos boîtes aux lettres, publicité télévisuelle, magasins regorgeant d'offres aussi diverses que variées, incitant les adultes et les enfants à affluer dans tous les lieux bruyants, clinquants, où la valeur et l'importance d'un individu se mesurent souvent à la longueur de la facture acquittée. Et les épiceries solidaires ne désemplissent pas. Les deux récits du texte de Luc sont courts, concis, proches dans le temps. Ils pourraient être des paraboles, mais ils sont d'autant plus percutants. Nous sommes dans la vie réelle et ils nous parlent entre autres de la notion de temps. Le temps, celui qui nous échappe avec un grand T, et notre temps à nous, mortels, avec un petit T. Et ils nous parlent également de marche, d'effort, d'attente, de recherche, d'angoisse, de confiance, de joie. Et nous questionnent sur les réponses que nous leur donnons, nous, aujourd'hui. Dès la Genèse, la notion de temps apparaît par la séparation des événements, le jour, la nuit, par l'organisation de l'espace où l'être humain vivra, et le Shabbat, entre autres, qui est rappelé dans la Genèse, dans l'Exode, dans le Deutéronome, ainsi que toutes les fêtes religieuses, sont des haltes salutaires pour permettre aux hommes d'échapper à la monotonie et la répétitivité d'un travail, parfois non choisi ou sans grand intérêt ou difficile physiquement ou psychologiquement, et cette nécessité du repos afin de se reposer, de se repérer dans l'espace-temps qui nous est imparti et dont nous ignorons la fin. Et pourtant, ce temps imparti nous échappe et sans arrêt nous disons « j'ai le temps » ou « je n'ai pas le temps ». Alors nous essayons de le quadriller par des horaires, des rendez-vous, des réservations, des prévisions. Elles sont indispensables et nécessaires. Elles rythment nos vies, domestiquer le temps. Et alors ce sablier prend parfois possession de l'individu jusqu'à la souffrance. Et cet individu devient alors une victime consentante de sa propre organisation. On peut épiloguer longtemps sur ce sujet. Et nous, que faisons-nous de notre temps? Cela dépend. Jésus et ses disciples montent vers Jérusalem. Il a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples sa fin prochaine, et ceux-ci sont non pas incrédules, mais n'ont pas compris le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Ils ont d'autres schémas en tête. Ils sont partagés entre crainte et incompréhension et gardent le fol espoir que le Seigneur ne succombera pas à ceux qui veulent sa perte. Jésus ne peut pas mourir. Ils n'ont encore rien compris. Et nous non plus, nous aurions espéré de même. Jéricho, la ville la plus basse, moins 300 mètres en dessous du niveau de la mer, et 35 km de montée avec 1100 mètres de dénivelé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais ce n'est pas facile. Dans un paysage désertique, jusqu'à Jérusalem, la ville la plus haute. Jésus continue à enseigner ses disciples sur le chemin. Il sait que sa fin approche et il essaie d'accélérer leur formation, ainsi que les deux guérisons qui vont suivre. Chemin faisant, deux hommes, l'un très bas dans l'échelle sociale et dans la précarité la plus extrême, un mendiant devenu aveugle, sans nom, avant Jéricho. Il a entendu parler de Jésus par la foule qui précède et le suit. Et Zachée, le riche, le puissant, honni, craint et envié, chef des collecteurs de taxes. Donc voleurs, ils le sont tous. Et collaborateurs de l'occupant romain dans Jéricho. Mais, dans un récit, il y a toujours un mais. Zachée est de petite taille, pour ne pas dire nain. Quand même, hein, il ne peut pas avoir tout celui-là. Hein. Ces deux hommes diamétralement opposés sont des handicapés lourds de la vue. Le mendiant dépend des autres pour se déplacer et ces autres-là empêchent le collecteur de taxes de voir et de rencontrer Jésus. Dans la poussière, seul et misérable, l'aveugle sait qui est Jésus. Il a retenu tout ce que la foule dit de lui, et notamment la déclaration de Jésus à la synagogue de Nazareth, où Jésus a lu le texte d'Ésaïe 61, en disant « Le souffle du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur ou de grâce. » En ajoutant, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il se déclare Christ. Jésus, fils de David, hurle le mendiant. Il reconnaît en Jésus le Sauveur, lui attribue ce titre messianique. Il en appelle à sa compassion, selon le texte d'Ésaïe cité par Jésus lui-même à Nazareth. Le mendiant n'a que la voix pour hurler son désespoir, sa souffrance et sa foi, et il se fait rabrouer par les disciples. Tais-toi, n'importune pas le maître avec tes cris, il va à Jérusalem. Les petits enfants aussi ne devaient pas faire perdre de temps à Jésus, d'après les disciples. Ils n'avaient pas encore compris, ils agissent à contre-temps, ils font écran. Et nous, peut-être aussi. Le mendiant hurle de toutes ses forces, « Fils de David !» Jésus, le Christ, s'arrête. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Seigneur, que je retrouve la vue !»« Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et se mit à le suivre, en glorifiant Dieu. Naissance d'un disciple. Cette guérison spectaculaire frappe la foule qui se met à glorifier Dieu. Foule en liesse et entrée triomphale de Jésus dans Jéricho. Mais dans cette foule joyeuse, un petit homme seul, bousculé par la foule qui l'ignore volontairement, un pauvre petit homme riche. Il veut voir Jésus. Il est très bien renseigné sur ses concitoyens. C'est son métier. Mais qui est ce Jésus? Il veut se rendre compte par lui-même. La foule forme un écran mouvant. Sans doute volontaire, car bousculer un collecteur de taxes dans l'anonymat, quel secret plaisir! Et Zachée ne peut voir Jésus qui passe, Jésus celui qui guérit, Jésus cet homme au regard de lumière, capable de s'émouvoir et de se réjouir auprès d'enfants et d'amis, de malades guéris, et de fustiger avec violence et hypocrisie l'hypocrisie des puissants ou certains détenteurs, entre guillemets, du savoir religieux. Zachée, le riche notable, comme l'aveugle à l'entrée de la ville qui criait sa désespérance et sa foi, est lui aussi prêt à tout. Ces deux hommes sont mus par une volonté qui leur donne une force inconnue et ce besoin est si intense qu'il pousse Zachée à un comportement complètement aberrant et profondément ridicule. Il n'a que faire du ridicule Zachée. Il court Zachée, il court vers celui qu'il ne connaît pas. Il court pour devancer cette foule écran et se hisser dans ce sycomore. Qu'attend-il? Qu'attend-il qui mérite toutes les moqueries qui ne manqueront pas? Le mendiant aveugle a hurlé, mais lui, Zachée, n'oserait pas interpeller le maître. C'est Jésus qui s'arrête au pied du sycomore, qui lève les yeux, qui l'appelle par son nom et au mépris des convenances, s'invite chez lui. Car Jésus est pressé. Zachée descend vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. Zachée voulait seulement le voir. Un échange de regards, son nom prononcé par cet homme étrange qui s'invite à sa table, lui a traversé l'âme. Il a eu en un regard la révélation de ce qui l'avait poussé à cette action ridicule. Le petit homme riche et solitaire a le cœur en joie. Cette joie ineffable de se savoir reconnu, appelé par son nom, accepté tel qu'il est. Cet homme renouvelé a compris dans une fulgurance l'urgence du changement radical de comportement. Il a reçu en un regard la révélation de la bonne nouvelle du pardon, cette grâce offerte. Et cet appel demeure aujourd'hui pour nous, tels que nous sommes, là où nous sommes. Seigneur Christ, il faut aussi que tu demeures aujourd'hui chez moi. Jésus souligne l'importance et l'urgence de sa mission avec l'expression « il faut que je demeure aujourd'hui ». Demeurer dans le sens d'attachement ou de croyance. Il dira « demeurez en moi comme je demeure en vous » ou « restez attachés à moi comme je reste attaché à vous ». Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du règne de Dieu. La foule suivait, curieuse, avide. Qui sait, un autre miracle ou une volée de bois vert? Déçue, elle maugrait. Il est allé loger chez les pêcheurs. Et elle en oublie la guérison du mendiant aveugle et l'entrée joyeusement recueilli dans Jéricho l'instant d'avant. Mais, encore un meilleur, face à Jésus et à la foule, comme le mendiant face à ceux qui voulaient le faire taire, Zachée déclare « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai extorqué quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Justification ou engagement ? Les verbes sont-ils au présent ? Zachée serait un honnête collecteur de taxes, un peu naïf, cherchant à se faire pardonner son métier. Ou un verbe au futur immédiat, Zachée, l'homme renouvelé, s'engage à vivre généreusement selon le droit, l'amour et la justice. Peu importe les commérages, qu'importe l'envie ou la mauvaise réputation attachée à la fonction, peu importe les discussions des spécialistes sur le temps des verbes, Zachée, l'impur, entre guillemets, pour cette foule, et le mendiant sans nom, qui avait sans doute de nombreux péchés à son actif, selon les croyances de l'époque, sont les hommes les plus joyeux en Christ. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus a brisé le cercle d'isolement et d'indifférence, de mépris, de souffrance. Il a libéré et restauré ces deux hommes, si différents et si semblables. Il a restauré leur relation à Dieu et aux autres. Un regard, une parole de Jésus, deux hommes renouvelés. Jésus s'invite aujourd'hui, ici et maintenant, en chacun d'entre nous. Saurons-nous lâcher notre sycomore, abandonner nos fausses sécurités, nos fausses bonnes raisons de remettre à demain ce que nous pouvons faire ou décider aujourd'hui? Le Seigneur a fait toutes choses nouvelles. Il nous attend, il est pressé. Et ce texte de louange que je lirai pour terminer est de France Quéré. Béni sois-tu, Esprit, de chuchoter à tout homme qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il y a ceux que tes feux dévorent, ceux que tu couves sous la cendre, ceux qui gémissent vers toi comme des branches incendiées, ceux qui protègent entre leurs mains une modeste lueur, et ceux qui se souviennent de ton étincelle jadis, et ceux qui l'ont oublié, ceux que tu éclaires et ceux qui s'enfument, ceux qui n'ont plus d'âtre, ceux qui ont le cœur en loque et dans la tête un grand abîme. Mais il n'en est pas un, ô esprit, à qui, au travers de la nuit, tu n'aies dit la bonne nouvelle et ne sache son âme façonnée par ton amoureuse éternité. Le Seigneur nous attend. Il est pressé. Amen.